Bonjour chers amis, pour ce beau samedi matin, vous êtes à l'émission Réussir sa vie, avec qui au micro? Et aujourd'hui, j'accueille nul autre que Gabriel Loesch. Bonjour Gabriel.
Bonjour Guy.
Bienvenue.
Merci.
Qui es-tu Gabriel?
Alors qui je suis? Tu sais, je l'ai appris dans un cours de développement. À se définir. Et en général, les gens se définissent par leurs activités ou leur travail. Et donc, ça fait déjà quand même pas mal d'années. Je me définis comme étant une femme qui aime l'aventure, le risque calculé, tout ce qui est nouveau et qui aime beaucoup apprendre. Donc voilà, c'est moi. Et puis je suis aussi j'étais une combattante et maintenant je suis un petit peu la guerrière au repos.
Tu vas nous expliquer tout ça. C'est fascinant. Déjà en trois phrases, tu nous as dit tellement de choses.
Ah bon? Je ne m'étais pas rendu compte.
Non, mais c'est difficile de se définir de...
Oui.
C'est un exercice qui n'est pas évident et que les gens évitent d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. C'est pour cela qu'ils se définissent avec donc les actions plutôt qu'avec le sens de soi-même.
Absolument.
De qui l'on est, de ses qualités également.
Mais il faut dire qu'on a fait beaucoup de progrès quand même depuis les quelques dizaines de dernières années. Je vois par exemple la génération des années 40-50... présenter leurs amis, nos amis avocats, nos amis médecins, nos amis dentistes, etc. On définissait les gens par leur occupation professionnelle, oui.
Mais je pense que ça n'a pas changé du tout, parce que lorsque je vivais, surtout en Amérique, donc aux États-Unis, dans les grandes villes, disons New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, les premières trois questions sont qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, où est-ce que vous habitez.
Ouais.
Donc c'est pour pouvoir juger la personne.
C'est ça, on adore mettre des étiquettes.
Oui, donc ce n'est pas qui êtes-vous, c'est plutôt où habitez-vous, que faites-vous, donc c'est le où, le que, le comment.
Oui, j'aime beaucoup le poster, que je me souviens plus, je pense que c'est Costi qui avait fait un poster où une femme musulmane, un monsieur lui demande d'où es-tu et lui dit de North York, quelque chose comme ça. Extraordinaire, quoi.
Oui.
C'était vraiment bien trouvé parce que malheureusement, au Canada, en plus, on pose une question supplémentaire, c'est d'où viens-tu ou de...
Oui. Et la différence entre le Canada et les États-Unis à ce niveau culturel, c'est que l'on dira d'où viens-tu, alors qu'aux États-Unis, on dira d'où viens-tu, et lorsqu'on répond et que ça ne satisfait pas l'apparence physique, c'est-à-dire que ça ne colle pas.
Ça colle pas, oui.
Alors, ils diront non, je veux dire, mais d'où viens-tu vraiment?
D'où viens-tu vraiment?
Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
Évidemment, parce qu'avec mon apparence eurasienne, on peut me prendre pour pas mal de mélanges.
Ouais.
On m'a prise pour une Libanaise, pour une Hawaïenne, pour une Asiatique, évidemment. Des fois, rarement, pour une personne ayant du sang noir.
Ouais.
Alors, c'est très intéressant, parce que lorsqu'on me demandait aux États-Unis, d'où viens-tu? Je dis, je viens de France. On me disait, non.
Ça colle pas.
Non, ça colle pas. Vous n'avez pas l'air française.
Oui, c'est ça. Mais je trouve étonnant les publicités qu'on trouve à la télévision en ce moment sur l'ADN. Là. On peut envoyer un échantillon de salive et puis on va découvrir toutes sortes de choses. Je trouve ça effrayant parce que moi, j'ai toujours l'impression que derrière ça, on est en train de cataloguer les gens encore plus.
Oui, et seulement sur un niveau. De nouveau, la différence entre, par exemple, l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est qu'en Europe, on va catégoriser les gens plus de par leur culture et leur niveau d'éducation, alors qu'en Amérique du Nord, ce sera plus sur l'apparence physique. Donc, on essaie de catégoriser les gens dans des groupes de races ou de mélanges de races, alors qu'on En France, je sais qu'un Africain qui parle parfaitement le parisien, par exemple, on le voit en tant que parisien.
Absolument. Et puis, il y a des grands auteurs africains dans la francophonie.
Oui. Et l'on voit les personnes qui viennent de Suriname en Angleterre, on les voit comme étant des sujets du Royaume-Uni.
Oui, tout à fait. Comme première chanson, tu as choisi ?
Alors, j'ai choisi Ali Farka Touré de l'Afrique subsaharienne parce que ça me rappelle évidemment mon passage en Afrique, au Sénégal, où je me suis fait beaucoup d'amis.
Et c'est pas compliqué de se faire des amis au Sénégal, je pense que c'est dans leur nature.
Non, les Sénégalais sont vraiment ouverts.
Gens chaleureux. Hein.
Oui, chaleureux. Et puis, c'est la pointe de l'Afrique vers l'ouest. Oui. Donc, il y a quand même une brise. Mmh. Et je pense que ça, le temps affecte toujours le tempérament.
Absolument. Les ions positifs de la brise de l'Alizé, oui, tout à fait.
Alors, j'ai choisi donc Hey Ghana, qui vient de l'album The River, parce que vraiment, ça représente la racine du blues.
Waouh.
Et c'est pour ça, c'est pour moi, c'est ça, l'Afrique, c'est la plage du Sénégal à Dakar,
oui,
le feu sur la plage, les gens qui étaient autour du feu, qui jouaient de la guitare et des percussions.
Super. Ben, ça commence bien, allons-y.
D'accord.
Avec le Sénégal. À tout de suite.
Et si Étienne Brûlé revenait, c'est sûr qu'il écouterait Choc 105.1.
Aujourd'hui, mon invité est Gabrielle Loesch. Gabrielle, merci d'avoir accepté mon invitation.
Oh, merci, Guy.
J'ai un peu peur de la prochaine question.
Ah.
Parce que je te connais un petit peu quand même. Qu'est-ce qui te tient occupé en ce moment? Attention, on a juste une heure pour l'émission.
Je te dirais franchement, en ce moment, je travaille pour moi-même, donc je porte plusieurs chapeaux. Et
ouais.
Ce qui me tient occupé au niveau créatif, c'est que je suis en train de réorganiser la raison d'être de certaines pièces chez moi. Donc, je suis en train de me créer un studio de peinture qui va être vraiment fonctionnel. Jusqu'à présent, j'avais mon studio dans la même pièce que mes vêtements. Alors donc, tu vois, c'est embêtant parce qu'à un niveau créatif, on n'ose pas se lancer totalement dans des mouvements impulsifs ou passionnés avec la peinture à cause des vêtements qui sont à côté. Tu vois?
Oui.
Et là, j'ai recouvert le tapis, je protège tout. Et donc, je pourrais me laisser aller.
C'est un bon programme, ça.
Oui.
Parce que tu fais des thérapies de groupe, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu as une technique tout à fait particulière d'inspiration où tu prends des groupes de gens et tu les laisses s'abandonner au dessin et à la peinture.
Oui, là, il s'agit d'une technique particulière qui, à l'origine, avait été inventée par une personne qui s'appelle Paul Hogan pour aider les enfants guerriers qui devaient être réhabilités. Et c'est une forme de méditation, de contemplation qui permet à la personne de se tourner vers l'intérieur. Par la suite, comme la personne est dans un groupe, de communiquer visuellement avec le reste du groupe en montrant son travail et en regardant le travail des autres. Et des études donc ont été faites pour les résultats de cette méthode et pratiquement tous les enfants guerriers n'ont jamais retouché à un fusil après cela. Après évidemment peut-être un an de cette thérapie dans un centre spécialisé en Afrique. Et donc, ça a été repris ici par un disciple de Paul Hogan. Et cette technique s'appelle Breath Lines. On peut trouver, d'ailleurs, si on fait Breath Lines sur Google, on peut trouver plus d'informations. Et ici, donc, ça a été utilisé en premier pour les personnes donc sans abri, les personnes qui se trouvent à des tournants difficiles dans leur vie. Et moi, je pense que c'est adaptable également pour les corporations, les équipes qui, des fois, ne travaillent pas bien ensemble. Voilà, c'est pour les rassembler, les aider à se concentrer de façon à ce qu'il y ait une certaine paix intérieure, ce qui leur permet par la suite de se regrouper et de viser le même but ensemble.
C'est une belle mission, ça, de réconcilier au travers de l'expression, surtout par le dessin et la peinture.
Oui, c'est une mission, c'est une belle technique également, et ça fait partie un petit peu de mon arsenal de coach,
oui,
puisque je suis coach de vie et coach professionnel,
oui,
professionnel voulant dire de carrière.
Oui.
Oui, en général, le coaching se rassemble autour de l'idée que la personne a déjà toutes les réponses,
oui,
mais ne sait pas où elle se trouve. Et donc le coach guide la personne ou l'équipe ou le groupe avec des techniques et des différentes modalités pour trouver ses réponses.
C'est une belle définition.
Merci.
C'est toi qui devrais mener l'émission en fin de compte.
J'en menais une, tu sais, à Choc FM il y a quelques années.
Oui.
Et mon émission s'appelait Les bonnes relations et c'est ce que je faisais.
Oui.
Je partageais.
C'est ça. Et tu continues.
Oui, et merci de m'en donner l'occasion.
Bah écoute, j'avais vraiment hâte de t'accueillir à Choc FM. Comme prochaine chanson, tu as choisi?
Eh bien, j'ai choisi une chanson, tu sais, un petit peu mort, parce que...
M-A-U-R-E.
Oui, je suis,
oui,
tombée, évidemment, étant française et puis eurasienne,
ouais,
je suis amoureuse de l'exotique.
Bien sûr.
Et on est toujours amoureux donc des anciennes... je vais dire colonie, malheureusement, j'ai
pas de
culture, d'accord,
oui,
culture de la France, dont l'Afrique du Nord.
Oui.
Et j'ai donc choisi Françoise Atlan qui chante Nani Nani,
oui,
de son album Romance Séphardie, Noches.
Ah bien, merci de son choix. On va écouter ça attentivement. À tout de suite.
Choc FM 105.1, 100% Toronto.
Gabrielle, tu es avec nous aujourd'hui et on a évoqué les questions que les gens posent quand ils vous rencontrent la première fois, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Mais je me dois de te demander, d'où viens-tu? Ça, tu ne l'avais pas vu venir, celle-là.
Non, non, ça c'est une bonne question. Parce que je ne me définis pas par ma race, ni ma nationalité, je ne me définis pas par ce que l'on m'a donné à partir du moment où je suis née. Je me définis par ce que j'ai trouvé, ce que j'ai découvert. Et si on me demande d'où viens-tu, je dois un petit peu énumérer tous les endroits qui font que je suis qui je suis aujourd'hui.
Bien sûr.
Alors, j'ai par exemple dans mon cœur, j'ai plusieurs pays. L'un d'entre eux, c'est l'Australie, parce que c'était à côté de la Nouvelle-Calédonie,
mm-hmm,
où j'ai grandi en tant que teenager.
Mm-hmm.
Et puis, parce que j'aime les grands espaces, l'Australie, c'est vraiment beau, il y a tout. Il y a la neige, il y a le soleil, les vagues. C'est un continent. Et je dirais que j'ai l'Inde dans le cœur, parce que c'est magique, qu'il y a vraiment de la poésie dans tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Je dirais que j'ai un coin pour l'Afrique, parce que c'est mystérieux pour moi. Et puis, définitivement, l'Amérique du Nord, parce que c'est là que je me sens géographiquement le plus confortable. Évidemment, je dois mentionner l'Europe, parce que je viens culturellement de là et de la France, mais mon cœur est toujours majoritairement là où je me trouve au moment présent. Et parce que je trouve ça inutile d'avoir son cœur ailleurs que là où on se trouve. Et donc, mon cœur est dans le Canada. Il s'enracine dans le Canada, que j'adore.
Alors, quelles sont les expériences les plus importantes de ta vie ?
Voyons.
Par où on commence ?
Mais c'est-à-dire que je faisais une espèce de... Avec un rolodex mental, je passais à travers beaucoup de catégories, là, en quelques secondes, je les catégorise comment. Et je dirais que peut-être on parlera des grands tournants, des grands tournants, c'est-à-dire les tournants qui se sont pris après les expériences qui changent la vie. Et je dirais que probablement d'avoir voyagé à travers le monde avec ma famille, avec mes parents, parce que mon père tous les ans nous emmenait quelque part dans le monde, et puis qu'il aimait bien se réinstaller. À peu près tous les deux ans, il travaillait dans le corps diplomatique à un moment donné. Et par la suite, en tant qu'homme d'affaires, on allait vivre dans les pays où il faisait des affaires. Donc ça nous a formés à un niveau international et culturel, polyculturel, où il a fallu vraiment observer et s'adapter très rapidement. Parce qu'on changeait d'école, évidemment, on se faisait de nouveaux amis. Et ce que cela m'a appris, c'est de former des relations profondes très rapidement. Parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre 10 ans, 20 ans. Donc ça, c'était une des expériences les plus importantes. Et par la suite, j'ai continué de voyager, donc seule, un petit peu en aventurière à travers le monde. Et pendant plusieurs années. Et j'ai donc trouvé moyen de travailler à droite, à gauche. Et ce que cela m'a appris, c'est surtout de ne pas juger. Parce que finalement, je n'étais qu'une observatrice qui passait. Et quelle raison avais-je de juger ? Donc, les religions, les mœurs, qui étaient des fois difficiles à comprendre. Et puis les préjugés, à ne même pas juger les préjugés dans différentes sociétés, comme le système de caste en Inde, comme le traitement des femmes dans les pays du Moyen-Orient, comme également les traitements de femmes dans les pays latins. Donc ça, c'était une deuxième expérience vraiment importante de ma vie. Et je dirais que la troisième, c'est de me stabiliser. Et je l'ai trouvée au Canada. Donc là, en ce moment, c'est la troisième phase de ma vie, la stabilité. Et à travers tout cela, je dois dire que ce qui m'enchante, ce qui me fait bouger, c'est toujours le rythme de la guitare, comme celle des Gypsy King. Et là où je ne peux pas m'empêcher de bouger, c'est avec Bamboléo.
Alors bougeons.
D'accord. On va danser.
En ce beau samedi matin, bougeons.
Choc FM 105.1, 100% Toronto.
Alors après cette petite danse qui nous a fait du bien, revenons-en à Gabrielle. Gabrielle, tu as rencontré beaucoup de monde dans ta vie.
Oui.
Ça va continuer. Mais quelles sont les personnes qui t'ont le plus influencé?
Voyons. Alors, je dirais, les influences viennent de plusieurs endroits, n'est-ce pas?
Oui.
Quand j'avais, dans les 20 ans, une auteure, Alice Miller, a écrit beaucoup de livres sur la violence domestique dans la famille et les résultats, les conséquences. Je crois que c'était une des premières personnes qui avait étudié le cas d'une droguée, et c'était nouveau à l'époque, et de ce que cette personne était devenue et pourquoi ces conséquences-là étaient si prévisibles. Et elle m'a beaucoup aidée. Elle a ouvert tout un domaine de psychologie et d'autres auteurs pour que je puisse m'éduquer sur le sujet. Parce que, en fait, oui, j'avais subi des violences dans ma famille. Donc, je dirais qu'elle a changé totalement ma vie parce que j'ai viré et j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté depuis, à m'informer sur le sujet et donc aussi sur le développement de la personne. Ce qui fait que ça m'a amené aujourd'hui à devenir coach. Je dirais que ça a commencé avec Alice Miller. Mmh. Et par la suite, j'ai développé un sens des affaires en travaillant pour un monsieur que j'ai rencontré à Londres alors que je sortais d'une partie. Et lui, qu'il rentrait à cette partie, monsieur que je ne connaissais pas du tout, qui avait un entourage d'hommes, et qui m'a dit « Non, 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 ne partez pas, revenez à la partie avec moi, j'ai quelques questions à vous poser. » Et donc j'étais intriguée, je l'ai suivi, il avait un Polaroid, il a pris une photo, et il m'a dit « Regardez une photo de moi, il m'a dit « Regardez cette photo, et dans 6 mois, si vous m'écoutez, vous serez totalement différente. » Donc il avait mon attention. Mmh. Et il m'a donc expliqué ce qu'il faisait. C'était un consultant financier dans les pays tels les États United Arab Emirates. Donc, oui. Comment dit-on en français? Les États arabes de l'Émirat. et surtout à Bahreïn. Il allait se rendre à Bahreïn. Et il m'a dit, écoutez, est-ce que vous aimeriez travailler pour moi? J'ai dit, mais qu'est-ce que je ferai? Il m'a dit, vous serez mon assistante personnelle. Et ça sera très dur, parce que à cause des horaires dans le monde qui sont différents, il faut communiquer avec plusieurs pays. Donc on dort peu. Et puis surtout, il vous faudra respecter le secret professionnel. Ça sera difficile parce que beaucoup de gens vous verront comme étant le lien le plus faible. Et essaieront de soustraire des informations. Donc, est-ce que vous croyez que vous serez capable d'être à la hauteur? Et j'ai pris un risque calculé, j'ai dit oui, absolument. Il m'a dit, oh, ok, on part demain par le Concorde. Est-ce que vous avez un passeport? Et j'ai dit, oui, j'ai un passeport, j'ai tout ce qu'il faut et je serai prête demain. Et ce monsieur, par la suite, m'a appris qu'il avait fait donc une recherche par le CIA de si j'avais un dossier, donc je dis pas n'importe qui quand même. Et donc le lendemain, on est parti. Et il donc m'a appris énormément de concepts d'affaires. L'un des plus importants est que il m'avait montré, parce que beaucoup de gens nous approchaient étant donné sa stature, qui était une stature très haute, On avait vraiment le tapis rouge à la descente de l'avion et la suite présidentielle dans les hôtels. Et donc, toutes sortes de gens nous approchaient avec toutes sortes de propositions. Et ils me montraient comment ils les sélectionnaient, comment ils les jugeaient, comment analyser une proposition. Et donc, m'a démontré que il faut toujours travailler légalement, de faire des choses du côté de la loi, parce qu'on peut faire autant d'argent du côté de la loi que de l'autre côté. Et ça, c'était une grande leçon.
Belle leçon de vie. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu voudrais mentionner ?
Oui. J'ai eu donc un maître à penser que j'ai rencontré en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Marcel Pétron, et qui était un peintre, disons, du fantasme. Il peignait des femmes fabuleuses, Vénus, qui sortaient de l'eau, avec de l'eau qui ruisselait sur leur corps, parfait. Il était très amoureux de l'essence de la femme. Et il peignait autre chose, évidemment. Mais c'était donc un peintre visionnaire. Et tout de suite, j'ai été attirée par sa peinture. J'étais très jeune à l'époque et il m'a prise comme assistante. Il faisait donc de la décoration intérieure et j'étais son assistante. Évidemment, lorsque je n'étais pas à l'école, j'étais très jeune et je prenais les mesures des pièces qu'il allait décorer. Je l'aidais avec les dessins d'architecture. C'était vraiment passionnant et j'ai donc appris avec lui à me respecter, parce que son adoration de la femme, son respect de la femme s'exprimait à travers des compliments qui étaient vraiment sincères. Et des directives qu'il me donnait quant au pouvoir de la femme dans la vie.
Allez, on va s'arrêter un petit peu, on va prendre une pause musicale. Qu'est-ce que tu as choisi ?
Eh bien, j'ai choisi quelqu'un qui m'a accompagnée beaucoup à travers mes voyages, et c'est Santana. Là, on va écouter Samba Pati de son album Abraxas.
Alors, à tout de suite.
Choc FM 105.1.
Une radio pour les francophones et par les francophones.
105.1.
Vous êtes à la mission Réussir sa vie en ce beau samedi matin du mois de septembre. Aujourd'hui, mon invité est Gabrielle Loesch. Gabrielle, beaucoup d'expériences, beaucoup de vécu, beaucoup de choses passionnantes, beaucoup de gens autour de toi. Et tu as vraiment su capturer et capter l'énergie de ces gens-là, d'après ce que tu as décrit. Quelles sont tes plus grandes valeurs aujourd'hui ?
Les valeurs sont vraiment très importantes pour tout le monde d'ailleurs. C'est quelque chose qui ramène les gens vers eux-mêmes lors du coaching. Mm-hmm. Ce sont les valeurs qui font que les gens avancent et qui motivent les gens également. Mm-hmm. Quand ils perdent l'accès à leurs valeurs, c'est là qu'ils perdent le chemin. Et je dirais que c'est surtout l'authenticité et le pouvoir développer une authenticité avec soi-même. Donc, en premier, il y a du travail à faire. On ne développe pas comme ça parce qu'on est bombardé de valeurs qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre pays, à notre famille, à notre religion, à notre culture, mais qui ne nous appartiennent pas à nous-mêmes précisément et individuellement. Donc on les adopte croyant que ce sont nos valeurs à nous. Mais pour trouver vraiment nos valeurs, authentique. Il faut pouvoir entrer dans un certain silence que l'on crée, soit par la méditation ou tout simplement en allant prendre des vacances seule. Donc il y a un isolement. Et ce silence éteint le bruit extérieur qui comprend toutes les valeurs dont je parlais auparavant, qui viennent de l'extérieur, et qui permet donc d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on arrive là, qu'on peut se poser des questions telles « qu'est-ce que je veux vraiment faire ?» ou « qui suis-je vraiment ?» on trouve ces réponses à l'intérieur. Et une fois que l'on a ces réponses, on tient une partie du soi authentique. Et on peut, à partir de là, agir de façon authentique. Si on pratique cet accès à l'intérieur authentique de soi-même. Et donc cela colore toutes les décisions que l'on prend. Est-ce que c'est en alignement avec le soi authentique ? Et je sais que devant la vie, ce n'est pas toujours possible. Mais ce qui est possible, c'est de trouver un lien avec, par exemple, beaucoup de gens travaillent, ont des postes qu'ils n'aiment pas vraiment. Bon, est-ce que c'est authentique ? Est-ce que c'est authentique par rapport à qui ils sont ? Peut-être pas de premier abord, mais si l'on cherche un lien, il y a toujours un lien entre le soi authentique et l'extérieur, mais il faut le créer. Donc on peut créer un lien, on peut trouver quelque chose que l'on aime dans ce qu'on n'aime pas. Et c'est ça le lien qui permettra à la personne de retourner travailler chaque jour, peut-être même avec joie ou motivation. Donc l'authenticité. Et en pratiquant cela, on devient meilleur juge de l'authenticité des autres. Donc on peut voir, je dois dire que en ce qui me concerne, il y a une certaine transparence que je vois dans les autres. Je vois facilement quand les gens mentent, je vois quand ils hésitent, je vois beaucoup d'expressions qui sont des mini-expressions que la plupart des gens ne voient pas. J'entends des nuances dans leur voix que les gens n'attrapent pas parce que je pratique cette authenticité avec moi-même. Donc, je vois si elle est là ou elle n'est pas là dans les autres.
Alors, c'est avec tout le parcours que tu as, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes réussites principales ?
Oui, je dirais que quand je vivais aux États-Unis, la réussite, c'était évidemment le matériel. Oui. Et surtout à Los Angeles, c'était en premier la voiture. Ah oui. Donc la voiture, c'était la définition de son identité. Mm-hmm. Et que grâce au monsieur, l'homme d'affaires avec qui j'ai travaillé dans le Moyen-Orient, j'ai appris, parce qu'il était tombé malade à un moment donné et il s'était retrouvé dans une belle chambre d'hôpital, magnifique comme je n'en ai jamais vu, au l'étage le plus haut avec une vue, mais il n'y avait aucune fleur, il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de carte de visite, parce qu'il avait toujours mis ses affaires en premier et ses relations en dernier. Ses relations personnelles. Je dirais que la réussite principale dans la vie, c'est d'avoir de bonnes relations avec son entourage, avec tout le monde. Donc, la qualité de ces relations définit vraiment la qualité d'une vie. Je dirais que donc, de faire attention à cela en premier, et c'est toujours ce que je fais maintenant, c'est quand je suis devant un choix entre le matériel, le statut social ou l'amélioration d'une relation, je choisis la relation. Même si mon statut social va en souffrir ou si matériellement je vais en souffrir également. Donc, je dirais que c'est surtout ça. Et là, j'ai réussi parce que je me stabilise au Canada. J'ai une relation merveilleuse avec un partenaire et je suis heureuse. Je dirais que c'est ça ma réussite principale.
Je suis bouche bée. Eh bien, écoute, tu as choisi encore une chanson.
Oui. Pour évoquer mon Inde magique, Anushka Shankar, qui évidemment joue Krishna, évidemment dans l'album Traveler. C'est tout moi ça.
Je dois te dire, et j'en bafouille, je suis amoureux d'Anushka.
Ah, et elle est belle en plus.
Elle est magnifique, et quand tu la vois jouer avec son père, c'est un enchantement. Il y a une complicité entre ces deux-là. C'est une. J'ai des frissons.
Ça se voit d'ailleurs.
Ça se voit. Quand j'ai besoin de bonheur, je vais sur YouTube, je tape Anushka et tout est là.
C'est vrai, elle a une certaine lumière.
C'est probablement une vieille âme, mais d'une positivité, c'est pas un mot français, mais d'une positivité, d'un rayonnement, d'un charme.
Charme.
Je pense que la moitié de l'humanité devrait être en amour avec elle.
Elle nous charme,
oh oui,
comme elle va charmer nos auditeurs.
Alors merci pour ce moment d'enchantement. J'anticipe et j'adore.
D'accord.
Alors à tout de suite.
Choc FM.
La radio officielle des Argonauts.
C'est déjà presque la fin, Gabriel, mais je suis vraiment content parce que en tant que coach, j'avoue que ça m'a enchanté de m'asseoir avec toi. On se connaît depuis longtemps, mais on a toujours un sujet à traiter à chaque fois. Mais là, pour une fois, on a pu avoir une conversation détendue sur qui tu es. Et je m'aperçois, une fois plus, au travers de tous les invités que je reçois, que je les connais très peu, en fin de compte.
Oui, alors, c'est cela.
Alors, je suis vraiment content qu'on ait passé cette heure ensemble, parce que ça nous a permis de mieux te connaître, et tu mérites tellement être mieux connu.
Ah, je suis flattée.
Je finis toujours cette émission, ou presque toujours, par le questionnaire de Bernard Pivot, que tu connais. Alors, tu es prête ?
Absolument.
Alors, votre mot préféré ?
C'est « oui ».
Oui.
Mm-hmm.
Ouh, c'est un mot dangereux, ça.
Je préfère « oui » à « non ». Et en général, je suis beaucoup plus réceptive au « oui ».
Le mot que vous détestez ?
Impossible.
Votre drogue favorite?
Je dois dire, en fait, j'ai entendu une définition de la drogue. Et la drogue, c'est de faire quelque chose ou prendre quelque chose et d'avoir des difficultés à s'arrêter.
Oui.
Et je dirais que c'est regarder ce qui est beau. Je peux passer des heures à regarder tout ce qui est beau. C'est-à-dire de l'art, de la mode, du design, de l'architecture. Et c'est difficile pour moi de m'arrêter. Je dois vraiment me discipliner.
Attention à l'indigestion.
Il n'y en a pas, là.
Le son, le bruit que vous aimez?
J'aime les cordages de bateaux qui claquent dans le vent. Pour moi, ça veut dire aventure. Grands espaces, on part vers l'horizon.
Là, je suis ému parce que je suis très amateur de navigation. Le son, le bruit que vous détestez.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le son d'une scie qui coupe le métal.
Ouais.
C'est tellement strident que je n'arrive pas à le supporter.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?
Si je jure en français, ce serait « eh, merde !»
C'est tout à fait convenable. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque ?
Je pense, parce que je suis aussi vraiment une fan de hockey et j'ai eu la chance de le voir à Los Angeles quand il faisait partie des Los Angeles Kings. Je pense que pour représenter le Canada, ça devrait être Wayne Gretzky.
Ouais. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire?
Bourrel, tuer des gens, enlever la vie.
Oui. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Je pense à cette créature qui est très attirante pour moi. Je l'ai peinte d'ailleurs plusieurs fois. C'est la méduse immortelle. Elle vit très, très... Elle se régénère. Elle se divise et se régénère. Donc elle est immortelle dans ce sens-là. Et j'aime les méduses. Je les trouve jolies.
Oui. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
Tu vois bien que j'existe. Ça serait une bonne confirmation à une grande question.
Oui, absolument. Je pense qu'on a tous besoin de savoir. Hein? Mais ça nous est réservé pour plus tard. Alors,
oui. Chaque
chose en son temps. En attendant, Gabrielle, merci. J'ai découvert un peu plus le coach de vie, la femme formidable qui sait inspirer les gens de manière authentique, j'allais dire.
Merci. Alors,
merci d'avoir accepté mon invitation. À bientôt.
Oui, à bientôt.
Merci, Gabrielle. Comme dernière chanson, tu as choisi?
Eh bien, j'ai choisi un groupe qui existait et qui est du Canada, parce que vraiment, c'est... Et puis, j'aime le blues. Alors, c'est Offenbach, que tout le monde connaît, d'ailleurs. Ouais. Et avec la chanson, la fameuse chanson « Kaline de blues ». Et surtout qui vient de l'album du dernier show, de leur dernier show au Forum en 1985.
Alors un petit morceau de blues pour commencer ce samedi matin.
D'accord.
En beauté.
Allez, on y va.
Allons-y. À bientôt.